Bienvenue au podcast Les Lucioles, un podcast où on vulgarise la recherche en biologie, mais pas que. Je suis Marie-Christine Lafrenière et je suis en compagnie de Stéphanie Chucha. Salut Steph!
Salut! Pour cet épisode de la saison 2, on reçoit Béatrice Gervais-Bergeron, qui est candidate au doctorat au département de sciences biologiques, sous la supervision de Michel Labrec et Pierre-Luc Chagnon. Béatrice, bienvenue au podcast Les Lucioles.
Merci beaucoup, je suis vraiment contente d'être là.
Nous aussi. Alors, avec toi aujourd'hui, on va parler de plantes qui peuvent nettoyer les sols contaminés.
Effectivement, il y a énormément de sites contaminés à Montréal et au Québec en général. Puis, je pense que les plantes font partie de la solution pour réduire les risques de contamination.
Super, mais avant d'entrer dans le vif de ton sujet de recherche, Béatrice, est-ce que tu peux nous dire comment t'es arrivée au doctorat ou d'où t'es venu l'intérêt, je sais pas, pour la biologie végétale ou la phytoremédiation? Donc, si on retourne un petit peu en arrière.
Bien, on peut même retourner pas mal en arrière, là, pour la petite anecdote. On dirait que c'est parti de là où je suis en ce moment, c'est-à-dire du jardin botanique.
OK.
Quand j'étais jeune, je pense que mon premier souvenir là, de parler d'écologie, c'était au camp de jour du biodôme, du jardin botanique.
Wow, donc... t'es allée au camp de jour du biodôme, c'est quand même très cool!
Pourquoi j'ai jamais été là?
Vous avez manqué quelque chose parce que c'est vraiment super, c'est mes camps de jour préférés. Je pense que c'était tellement populaire, en fait, là, que ma mère devait se lever à 4h du matin pour aller faire la file, pour m'inscrire, tout ça.
Wow!
C'était pas des ballons chasseurs là, à longueur de journée.
Non, non, c'est ça. On faisait des jeux de tag sur les chaînes alimentaires. C'était vraiment génial.
Wow!
On dormait au biodôme. Tu sais, espace pour la vie, il y a vraiment...
OK, je pense qu'on est juste comme ça.
Tomber en la chance. Dormir au biodôme?
Oui, en fait, on avait le droit de dormir une soirée au biodôme, de faire le tour des écosystèmes nocturnes. On dormait soit à l'aquarium ou avec le castor.
Même pas avec les manchots?
Non, je pense qu'il faisait trop froid un petit peu.
Ah, c'est tellement cool!
Ouais, ouais, vraiment, là, les camps de jour pour les jeunes, c'est vraiment le fun. Je pense aussi que c'est mon premier contact avec des scientifiques, des écologistes qui venaient nous voir faire des ateliers pendant nos camps de jour. Fait que ça m'a vraiment allumée. Puis j'ai continué un peu à toujours être intéressée là, en environnement depuis vraiment jeune. Puis c'est vraiment quand je suis partie là, en Amérique latine, donc j'ai fini mon cégep en sciences nat, là, vraiment normal. Je savais que je voulais aller en environnement, mais j'étais pas trop sûre de dans quoi je voulais m'en aller. Puis on dirait que j'avais envie de rentrer à l'université là, en sachant où je m'en allais ou avec plus une passion ou quelque chose de clair. Mm-hmm. Fait que je suis partie, j'ai pris mon pack-sac. J'ai vraiment fait toute l'Amérique du Sud.
Wow. Puis
c'était vraiment super. J'ai rencontré des gens incroyables et tout ça. Puis j'ai aussi constaté qu'il y avait vraiment là, des... l'impact de l'extractivisme, de l'extraction des ressources, des barrages hydroélectriques, des coupes forestières un peu partout dans le monde. Puis j'ai aussi vu à quel point, notamment les plantes, étaient importantes là, dans la structure des écosystèmes. C'est vraiment nos ingénieurs ici. On a beaucoup d'eau, fait qu'on a beaucoup de forêts, tout ça, on est habitué. Mais quand on va dans des climats plus secs, on se rend compte à quel point là, les plantes sont capables de résister à des conditions vraiment extrêmes, tout ça.
J'aime ça d'entendre que les plantes, c'est les ingénieurs d'un écosystème. Tu sais, on s'imagine l'ingénieur d'un écosystème comme un castor qui bâtit un nouvel étang.
Ouais.
Mais là, tu nous parles de plantes, je pense que ça m'allume vraiment.
Ben oui, en fait, les plantes sont vraiment la base de notre écosystème. Elles reconstruisent notre sol, elles accélèrent la formation du sol, elles retiennent l'eau, etc. Puis je pense que j'avais vraiment envie de savoir qu'est-ce qu'elle faisait. C'était quoi l'interaction avec l'environnement? À quoi elle servait? Puis j'avais envie de prendre ce privilège-là qu'on a d'avoir des universités accessibles et de pouvoir partager ce savoir-là par après.
OK.
Et c'est pour ça que je suis allée à McGill. Ils ont un bac juste en biologie de l'environnement. Fait qu'aucun humain, rien de bio trop humaine, vraiment juste de l'environnement. Puis j'ai pris des cours en plantes, en écologie. Je suis même allée faire là, un échange d'un an à l'Université du Chili,
Là,
à la faculté ingénierie, agronomie et tout ça. Ils ont beaucoup de cours qui, ne donnaient pas à McGill, mais aussi, ils ont des écosystèmes complètement différents, comme je disais, un peu plus secs aussi, beaucoup de mines. Puis c'est là que j'ai été introduite là, à la phytorémédiation, c'est-à-dire gérer la contamination des sols avec les plantes.
Mmh. OK. Puis qu'est-ce qui t'a amené en recherche de bord? Là, tu constates ça au Chili, tu reviens ici, puis...
Tu finis ton bac.
Ben, en fait, quand j'ai fini mon bac, je me suis dit, je vais aller en entreprise, voir un peu comment ça se fait, qu'est-ce qui manque, etc., pour peut-être retourner en recherche. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune entreprise presque qui faisait de phytorémédiation. C'est comme encore
expérimental
ou peu utilisé parce que c'est pas non plus nécessairement rentable à certains égards, en tout cas.
Et on
je me suis rendu compte, en fait, que la majorité des gens qui voulaient faire de la phytorémédiation se tournaient vers Michel Labrec.
OK.
Et donc, je me suis tournée vers Michel Labrec. Je lui ai écrit, etc. Et on a eu une entrevue et ça a super cliqué. C'est vraiment un chercheur extraordinaire. Fait que on s'est proposé, en fait, un projet de recherche. On a construit un projet de recherche ensemble. Puis c'est là que j'ai commencé la recherche plus spécifiquement sur l'écologie fonctionnelle et la phytorémédiation.
Parfait. Super. Je pense qu'on rentre bien dans le sujet global de ta recherche. Donc, c'est quoi le contexte ici au Québec de la phytorémédiation?
Donc, le contexte, ben, pour commencer, disons, il y a beaucoup de sites contaminés. Mm-hmm. On en compte, en général, on dit à peu près 30 000.
30 000
au Canada.
OK, au Canada. Okay.
Puis à peu près 8 à 9 000 au Québec, dont à peu près là, le tiers ou la moitié sont à Montréal, Montérégie. Mm-hmm. Évidemment, beaucoup à cause de notre passé industriel ou notre présent industriel aussi. Là. Les activités industrielles, économiques se font surtout à Montréal, dans les environs, d'où le fait qu'on a plus de terrains contaminés ici.
Mais s'il y a 8 à 9 000 terrains contaminés au Québec, là, dont la plupart à Montréal, c'est combien grand un terrain contaminé?
Ça peut aller de plusieurs mètres carrés ou parfois on a même là, des 1000 hectares là, de terres contaminées. C'est sûr que ça va être moins à Montréal.
Ça dépend de l'entreprise.
Oui, exactement. C'est juste un terrain industriel ou un terrain, tu sais, même un terrain là, de où on va prendre l'essence, c'est pas un très gros terrain, mais une fois que ça a fermé ou s'il y a eu un déversement, ça peut être un terrain contaminé.
Mais par exemple, ici au Campus 1000, c'était un terrain contaminé. Okay. Avant, ici, c'était une gare de triage de la compagnie Canadian Pacific. Puis pour construire le Campus 1000, il a fallu qu'ils décontaminent le site. C'est quand même grand, là, le Campus 1000 puis tous les environs. Tu sais, c'est cool de le voir aussi directement sur notre milieu d'études.
Oui, absolument. Donc, ces terrains-là contaminés, ils appartiennent à qui, finalement? Mm-hmm. C'est les entreprises qui étaient là avant? C'est encore à eux? Mais ils les ont abandonnés? Là, c'est pour ça que c'est rendu un terrain?
Ben, c'est assez complexe. Non, les terrains contaminés englobent privé ou public. Okay. Lorsqu'on parle de friches industrielles, disons, abandonnées ou de terrains vacants, là, ils ont été abandonnés par l'industrie. Et ça revient parfois, ça devient dans le passif environnemental du Québec, là, donc ça revient au niveau public à gérer ça.
OK, même si ça appartenait à une compagnie privée.
Ouais, des fois, ils ont fait faillite ou des choses comme ça. Donc, ça devient un peu complexe, la question de à qui est la faute, à qui ça appartient. Mais il y en a beaucoup. Il y en a que les entreprises gèrent elles-mêmes, puis il y en a que c'est le gouvernement qui doit gérer.
Mais j'imagine si il y a tellement de terrains qui sont juste laissés ou abandonnés, il y a quand même des risques à les laisser contaminer.
Oui, effectivement. Puis c'est un peu pour ça là, que ça m'intéresse, parce que on a des techniques conventionnelles là, de décontamination dont on va parler, sauf qu'elles sont quand même très coûteuses. Et donc, il y a beaucoup de terrains qui sont abandonnés, qui sont un peu en attente d'être décontaminés. Et il y a quand même des risques là, de dispersion de la contamination, soit dans l'eau, soit dans l'air, ou directement là, par le sol qui érode sur la voie publique, etc.
Donc, c'est quoi les exemples de méthodes de décontamination usuelles?
La plus utilisée, c'est l'extraction du sol et le déplacement vers des dépotoirs qui gèrent les sols contaminés.
On fait juste déplacer le problème.
On creuse, puis j'allais dire la même chose.
Exactement.
Okay, bon.
C'est sûr que ça apporte un risque zéro sur place, dans le sens où il n'y a plus de contaminants sur place, mais effectivement, on fait juste déplacer le problème.
Ça doit être particulier à chaque contaminant.
Oui et non, t'sais, excaver, aller dans un dépotoir, peu importe. Mais effectivement, dès qu'on va dans des techniques un peu alternatives, disons qu'on utilise l'électricité dans le sol ou la chaleur ou des produits biologiques, etc., on va pouvoir effectivement identifier un contaminant ou un autre. Les plus difficiles justement à faire c'est souvent les métaux, parce qu'elles se dégradent pas. Mm-hmm. Contrairement à du pétrole ou des contaminants pétroliers, eux se dégradent. Donc, des fois, c'est plus facile de mettre de la chaleur ou des choses comme ça pour les dégrader, mais les métaux, c'est plus difficile. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser des plantes, surtout avec les métaux, là, comme je l'ai fait dans mon doctorat, c'est que les plantes ont un système racinaire vraiment étendu et très petit. Et donc, ils sont vraiment capables d'aller chercher là, dans une bonne profondeur, mais aussi une grande surface dans le sol, et sont déjà capables d'accumuler des métaux de façon naturelle. Et là, après ça, c'est plus à nous de savoir quelle plante est capable d'accumuler ce qu'on veut, tel genre de métaux, etc. Puis là, de comprendre toute l'écologie et le fonctionnement des plantes sur ce genre de site-là.
Et donc, c'est ce qu'on appelle finalement phytorémédiation, parce que phyto, ça lie aux plantes, et puis remédiation, ben c'est un autre terme là, pour dire décontamination.
Ouais, exact. Donc, phyto, c'est vraiment un préfixe pour plantes, ceux qui font de la photosynthèse. Et remédiation, c'est vraiment remettre à l'usage qu'on veut. Donc, c'est ça.
Est-ce qu'on peut dire de la restauration?
On pourrait, mais comme c'est pas... Restauration, c'est plus utilisé au niveau écologique. Là. Donc, okay. Pour l'instant, on veut juste revenir à des usages de base, là, comme on voudrait peut-être construire le campus 1000 dessus.
OK, fait que ça, dépend, c'est ça, ça dépend des usages humains, des activités exact. Qu'on veut y faire. Exact. Est-ce que ça peut être un parc dans un quartier résidentiel? Ou est-ce qu'on veut construire un autre type de... Ça peut être des logements, alors qu'avant, c'était une industrie. Donc, c'est vraiment typique à l'usage.
Oui, exact.
Oui, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de bénéfices aussi à décontaminer des sites.
Oui, c'est ça. Tu sais, je parlais de risque de dispersion de la contamination. Donc, lorsqu'on les décontamine, ben c'est pas simplement pour réutiliser, mais c'est aussi pour réduire ces risques-là qui peuvent être nocifs pour la santé humaine, mais aussi des écosystèmes. Éventuellement, quand on utilise des plantes aussi, comme ce que je fais, on a plein de co-bénéfices aussi qui arrivent dans cette restauration-là ou dans cette remédiation-là.
Qu'est-ce que tu veux dire par co-bénéfices?
C'est-à-dire que le bénéfice premier va être de réduire les risques de contamination.
C'est ça. Fait que décontaminer, risque,
exact.
On l'enlève.
Et donc, les co-bénéfices, c'est tous les bénéfices à côté qu'on peut obtenir lorsqu'on met des plantes. Donc, simplement le fait de végétaliser amène des bénéfices. Mm-hmm. Ce qu'on appelle souvent aussi dans la littérature des services écologiques.
OK, OK. Tu peux-tu nous donner des exemples?
Donc, on pourrait parler de séquestration de carbone, pardon, par exemple, qui est un très populaire ces temps-ci là, pour essayer de donner un service de régulation du climat. Mm-hmm. Donc, le carbone dans l'air, etc. Les plantes sont capables de l'absorber. On pourrait aussi penser à fertilité des sols. Donc, je parlais un peu là, de comment les plantes sont capables d'accélérer la formation du sol pour le rendre de plus en plus fertile. On peut penser aussi là, à régulation de l'eau, permettre l'infiltration pour éviter les inondations, etc. Donc, il y a beaucoup de services écologiques qui sont fournis par les plantes.
Moi, je pense juste au retour des animaux, des insectes. Ça peut être tellement cool si, par exemple, si tu habites dans l'est de Montréal puis tu as des anciens terrains contaminés qui deviennent végétalisés, ben là, les oiseaux s'en reviennent, les insectes peuvent les coloniser. Donc,
les pollinisateurs.
C'est quand même agréable de revoir ce retour à la vie-là.
Ben oui, c'est drôle que tu dises dans l'Est, parce que c'est justement là que j'étais mon premier terrain. On dirait que t'étais informée.
Non, mais pour vrai, quand je pense à industrie, je pense à l'Est de Montréal.
Ben, effectivement, c'est pour ça qu'on va travailler là aussi. Il y a beaucoup de friches industrielles là-bas, de terrains industriels, d'industries actuelles. Et même qu'un de nos terrains, là, c'est d'un côté de la rue, il y a une industrie, et l'autre côté, c'est des maisons.
Oui, c'est ça. Donc, c'est aux deux choses que je pensais. C'est que autant il y a des industries, mais je connais beaucoup de personnes qui maintenant habitent là ou ont des maisons là parce que c'est plus abordable aussi.
Exact. Et donc, ça fait vraiment un espace vert qui fait un genre de tampon là, entre les nuisances de l'industrie et les résidents. Et même qu'il y a tellement de biodiversité maintenant, là, des fois, quand on allait faire des entrevues sur le terrain ou des choses comme ça, ou même des réunions, on devait sortir sur le trottoir ou plus loin parce qu'il y avait tellement d'oiseaux puis de champs d'insectes puis tout ça.
C'est quand même un beau problème.
Effectivement, oui, exact. Donc, quand on parle de co-bénéfices, là, biodiversité, etc.
Mais comment on mesure ces bénéfices-là puis ces co-bénéfices-là?
Il y a plusieurs façons de mesurer les services écologiques. Ma façon préférée, en tout cas, une que j'utilise beaucoup, c'est les traits fonctionnels. C'est quoi un trait fonctionnel? c'est bien simple. C'est une mesure sur une plante ou même un autre organisme, là, mais une mesure sur ma plante très simple qu'on a réussi à corréler à des fonctions de la plante.
T'as des exemples?
Oui. Par exemple, la hauteur de la plante va m'aider à savoir à quel point elle est compétitrice. Donc, à quel point il est capable d'aller chercher le soleil, par exemple. La grandeur de la surface de sa feuille aussi va m'aider à savoir si elle est compétitrice.
Les racines.
Les racines aussi, la densité, la longueur. la densité de carbone ou la quantité de carbone ou d'azote qu'il y a dans les feuilles va m'aider aussi à savoir est-ce qu'elle pousse rapidement ou est-ce qu'elle est plus du genre à garder ses ressources et pousser tranquillement. Donc, ça, c'est des traits assez simples qu'on a développé pour éviter d'avoir toujours à mesurer des fonctions complexes. Parce que mesurer la compétitivité d'une plante, ça peut être un peu complexe. Et donc, ça fait des dizaines d'années là, que l'écologie s'occupe un peu ou étudie ces corrélations-là pour nous permettre de travailler avec les traits fonctionnels.
Fait que c'est les cataloguer.
C'est cataloguer, mais aussi, c'est surtout comme avoir des proxys qui nous permettent là un peu de pouvoir mesurer des choses qui nous intéressent, qui nous permettent de comprendre l'environnement, l'interaction plante-environnement, etc.
Ouais, donc moi, j'ai ces trois mots-là en tête. Donc, on a des traits, on a des services, et puis on a des bénéfices. Est-ce que, genre, juste pour m'aider à comme concrétiser l'interaction entre ces trois termes-là, aurais-tu un exemple, mettons, avec le carbone là, qu'on discutait tantôt?
Ouais, mais si on continue un peu dans mon idée là, de la taille, qui nous permet de savoir si elle est compétitive, etc., mais une plante qui est compétitive, qui pousse rapidement, c'est aussi une plante qui va accumuler beaucoup plus de carbone. Mm. Et donc, on s'est rendu compte que non seulement ces traits-là sont corrélés à des fonctions, mais sont aussi corrélés à des services écologiques, comme la séquestration de carbone.
Oui. Donc, la hauteur ou la taille de la plante, le plus qu'elle est grande, donc ça, c'est son trait, le plus qu'elle séquestre le carbone, qui est le service écologique, et puis c'est un bénéfice parce que ça enlève du carbone de l'atmosphère.
Fait que la chaîne est comme complète, même si on a de l'information très minime, là, comme nos petits traits très simples, comme la taille de nos plantes, par exemple.
Et maintenant, comment qu'on relie ça à l'accumulation ou à la décontamination des métaux? Donc là, on rentre un peu dans le vif de ton sujet de recherche. C'était quoi ton but avec les traits fonctionnels, les bénéfices, et comment que t'as orienté ta question de recherche?
Mon objectif dans mon doctorat, c'était de faire un peu la même chose avec nos services comme de séquestration de carbone, mais les services de phytorémédiation. Mm-hmm. Donc, si on pense un peu à la phytorémédiation, l'objectif un peu premier ou un des objectifs, c'est que notre plante accumule des métaux pour qu'on puisse sortir ces métaux-là du sol.
Super.
Et je me suis demandé, cette stratégie-là d'avoir des traits très simples qui sont corrélés à des fonctions et à des services et des bénéfices, est-ce qu'on pourrait faire cette chaîne-là de corrélation aussi dans des milieux contaminés en phytorémédiation? Et donc, je me suis posé la question très simple. Est-ce que les traits fonctionnels sont corrélés à l'accumulation de métaux dans nos plantes?
Mmh. Et donc, moi, ce que je me demande, c'est, mettons, tu n'es pas la première à vouloir mesurer l'accumulation de métaux dans les plantes. Donc, dans la littérature, qu'est-ce qui a déjà été fait, mettons? Et puis, qu'est-ce qui manque qui fait que ce que toi t'apportes, c'est nouveau?
Bien, en fait, dans la littérature, en général, on va mesurer directement la quantité de métaux que les plantes peuvent accumuler sur des terrains contaminés.
OK, donc on parle pas du tout de traits, finalement.
Non, jamais.
C'est juste la concentration de métaux dans les plantes.
Exactement. Mm-hmm. C'est un peu ça l'angle novateur que j'amène avec ma recherche, c'est que à peu près personne n'a utilisé les traits fonctionnels en phytorémédiation ou en milieu contaminé.
Oui, OK. Parce que j'imagine que aller chercher une plante sur le terrain, l'amener en laboratoire, mesurer sa concentration de métal, c'est quand même long, tu sais, puis ça prend beaucoup de ressources et tout ça. Fait que si on a, mettons, un catalogue qui dit déjà quels traits ont ces plantes-là, ça va aller beaucoup plus rapidement. Il faut juste mettre les deux ensemble, donc le trait et la capacité de la plante à accumuler le métal.
Oui, exactement. Puis, c'est pas pour nécessairement remplacer la mesure de métaux. C'est juste aussi que, non seulement c'est long, mais c'est aussi que c'est pas généralisable. C'est-à-dire que quand je lisais les articles scientifiques, etc., c'est une plante à la fois. Ou même toujours la même plante qu'on répète dans différents contextes, combien elle accumule, etc. Et donc, ça nous permet pas de généraliser, de comprendre c'est quoi le genre de type, c'est quoi le genre de plantes qui sont capables d'accumuler. Parce qu'on est encore avec les contraintes de taxonomie, là, fait que le nom...
Fait que ce serait, est-ce que c'est celles qui ont une croissance très rapide ou c'est celles qui ont des grosses feuilles ou c'est celles qui ont des grands systèmes racinaires très, très profonds ou en surface? Donc, c'est un peu ça. On essaie d'avoir une catégorie de traits qui sont associés à une forte décontamination.
Exact. Fait que ça permet justement d'avoir un bassin plus général. De un, ça nous permet une meilleure compréhension. OK, donc ceux qui poussent le plus rapidement sont capables d'aller chercher plus de métaux, par exemple. Je sais pas que c'est ça, là, mais...
Oui.
C'est juste pour comprendre. Là, on va se dire, ah, OK, ben pourquoi? Puis là, on va pouvoir approfondir, etc. Mm-hmm. Puis en même temps, ça va nous permettre d'avoir un bassin, de se dire, OK, bon, ben on va prendre déjà les plantes, toutes ceux qui sont les plus grandes, mettons, et on va tester ceux-là. Fait que déjà, ça nous réduit, là, une grande partie, là, des plantes.
Mais j'ai une question.
Mm-hmm.
Si on prend des plantes qui accumulent les métaux dans leur tissu, puis qu'on déplace ces plantes-là, à quel point c'est différent de juste pelleter la terre et de l'amener ailleurs?
C'est une bonne question. techniquement, pour la quantité de métaux, elle pourrait être la même.
OK.
La grosse différence, disons, lorsqu'on accumule les métaux dans les plantes, on les coupe, on les récolte.
Ouais.
Et donc, on les sort du site. Le pire qui arrive, c'est qu'on n'a aucun débouché pour ces plantes-là.
Mm-hmm.
On les incinère, puis on va les porter dans un dépotoir aussi.
Mm-hmm.
Par contre, dans ce cas-là, le volume au dépotoir est beaucoup plus petit qu'un volume de terre.
Puis il y a des co-bénéfices.
Exact. Fait que c'est comme si nos plantes venaient concentrer le contaminant en elles pour que le volume qui va au dépotoir est beaucoup plus facile à gérer.
Et il apporte tous les services qu'on a mentionnés.
Exact.
Tantôt.
Okay, en cool. Attendant. Ouais, ouais.
Ça fait du sens. Ça fait du
Puis
sens.
Dans le meilleur des pires, on est capable d'aller soit rechercher ces métaux-là ou en tout cas de valoriser mm-hmm. la biomasse, donc de valoriser cette masse-là de plantes. Il y a des chercheurs un peu partout dans le monde qui s'affairent à ça, à avoir un peu des débouchés avec cette biomasse-là. Parfois, elle n'est pas très contaminée, donc on peut la réutiliser directement pour faire des clôtures, des choses comme ça, avec le bois. Parfois, on peut essayer d'aller chercher les métaux pour faire d'autres produits médicamenteux ou peu importe. Là.
Wow, OK. J'aime beaucoup cette idée de remise en circulation.
Oui, oui, tout à fait. Ouais. Une économie circulaire, ouais, ça serait idéal.
Ouais. Puis, je me pose la question d'abord, dans tout ton doctorat, c'est quoi le but à la fin de ça?
Mon objectif, idéalement, c'est de générer un modèle avec les traits basés sur les traits fonctionnels. Donc, de trouver vraiment quels traits fonctionnels nous permettent de prédire l'accumulation de métaux dans les plantes.
Mm-hmm.
Parce que ça serait utile, mettons, à des gens qui sont dans des positions de décision pour dire, OK, ce terrain-là, on va le décontaminer en utilisant ces plantes-là. Ou est-ce que ce serait plus pour, mettons, juste fondamentalement continuer la recherche?
Mais un peu comme je disais, ça sert aux deux. C'est ça qui est fantastique avec les traits fonctionnels, ou en tout cas que je trouve fantastique, c'est que non seulement c'est un outil très concret pour tous ceux qui vont prendre les décisions, quelles plantes on met dans l'aménagement de ce terrain-là, est-ce qu'il est contaminé, etc. Donc, tous ceux qui prennent les décisions d'aménagement vont pouvoir l'utiliser. Et aussi, au niveau fondamental, ça nous permet de nous poser des meilleures questions ou d'approfondir pourquoi elles sont capables d'accumuler ces métaux-là.
Tout à fait.
Puis bon, qu'est-ce que t'as fait dans ton doctorat? T'as dit tantôt que t'étais allée dans l'est de Montréal, dans une friche industrielle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, tout à fait. On travaille dans l'est de Montréal parce que, justement, on l'a dit, il y a beaucoup de zones... c'est une grande zone industrielle.
Mm-hmm.
Il y a des industries actuellement. Et il y en a aussi d'autres qui étaient et qui n'y sont plus. Et des terrains en sont la preuve. Ils sont parfois ou souvent contaminés. Et quand je suis arrivée au laboratoire de Michel Labrique, il avait déjà mis en place ce qu'on appelle un banc d'essai de phytorémédiation. C'est à peu près 4 hectares végétalisés, mm-hmm. principalement avec des saules, pour un peu là, explorer et tester différentes techniques de phytorémédiation et aussi voir justement tous ces co-bénéfices-là, etc. Voir comment ça fonctionne dans l'est de Montréal.
Est-ce que c'est plusieurs espèces de saules différentes ou c'était la même espèce selon différentes conditions?
On a plusieurs espèces de saules
okay.
et aussi de peupliers.
Ah.
On a fait quelques tests d'herbacées, etc. Donc, c'est vraiment très exploratoire. Moi, quand je suis arrivée, ça faisait déjà 4 ans que
okay.
ces plantations-là avaient été faites. Et donc, je suis vraiment arrivée en mode « Ah, mais c'est parfait, les plantes sont déjà bien établies. On va aller mesurer les traits fonctionnels de nos différents types de saules. » Donc, j'ai pris à peu près 3 espèces. Je suis allée les mesurer pendant l'été.
3 espèces, mais c'est combien d'arbres?
Il y avait à peu près 12 parcelles, donc 4 blocs de 3, donc c'est ça.
Ben moi, je me demandais juste pourquoi les saules?
Bonne question. C'est vraiment l'espèce emblématique de notre laboratoire chez Michel. Ils l'utilisent beaucoup parce que c'est des plantes qui sont non seulement très tolérantes à différents stress, comme autant okay. le stress de contaminants que le stress de sécheresse, par exemple, parce que quand on est sur des friches industrielles, c'est des vieux terrains industriels abandonnés.
Mm-hmm.
Et donc, il n'y a pas juste de la contamination, il y a aussi de la compaction du sol, beaucoup de roches, des gros déchets, c'est pas un sol fertile là, comme en niveau agricole ou en site forestier. Donc, il y a beaucoup de sécheresse qui peut arriver, exposé au vent, gros soleil. Donc, c'est vraiment des conditions stressantes. Et les sols sont vraiment reconnus là, pour être très tolérants à divers stress, en plus de croître très rapidement. Donc, on a aussi un effet intéressant, c'est-à-dire que ça colonise ou ça verdit rapidement notre site et ça pousse très rapidement, ça nous procure beaucoup de biomasse, donc mm-hmm. de masse là, pour aller un peu, ça fait comme un effet de pompe, ok? Donc, ça va pousser, plus ça pousse, plus les racines vont dans le sol, chercher nos métaux, les ramènent dans les parties aériennes. Et donc, ça c'est assez bon pour faire de la phytorémédiation, c'est un peu ça qu'on teste.
Et toi, t'as mesuré quel trait? Donc, t'as dit de mesurer les sols, mais qu'est-ce que t'as mesuré concrètement?
Donc, j'en ai mesuré une dizaine de traits. C'est par exemple la teneur en carbone ou en azote dans les feuilles, dans les racines, la densité des tiges, donc du bois par exemple, ou la surface spécifique foliaire. Donc, c'est des traits qui sont largement utilisés dans la littérature et que je voulais un peu tester, là. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris une grande quantité.
Donc, moi, je t'imagine sur le terrain, aller comme couper des feuilles, les mettre dans les ziplocs, mettons, ramasser des racines, les mettre dans des ziplocs aussi. Est-ce que je m'imagine bien?
Oui, exact. Surtout dans les ziplocs, c'est important.
Je disais ça de même, là.
Non, mais parce que souvent, quand on veut juste les métaux, on va juste prendre la biomasse sèche. C'est-à-dire qu'on va prendre la masse de feuilles ou de plantes, on va les faire sécher. Et là, on va les réduire en poudre.
Okay.
Et là, on va les faire, on va faire nos tests là, de métaux. Mais quand on parle de traits fonctionnels, on s'intéresse vraiment là, aux feuilles fraîches. Et donc là, c'est vraiment important. On les coupe, on les met dans les ziplocs, on met de l'eau. Même des fois, on peut respirer, leur donner un peu de CO2. On zippe ça, on les met dans un cooler, dans une glacière, pour les garder à 4 degrés pour minimiser l'activité. Et là, on court au laboratoire à aller faire nos tests. Parce qu'il faudrait pas que notre plante se dessèche.
Ah, wow, OK, bon.
Fait qu'en général, c'est la même journée.
J'imagine des étudiants courir avec des glacières à travers Montréal.
Ben, on avait juste 12 parcelles, fait qu'on n'avait pas besoin de courir, mais quand même.
Je les voyais en dessin animé quand t'as dit ça.
Ouais. Mais disons que les journées étaient longues.
Est-ce que, justement, t'as déjà des résultats par rapport à ça?
Donc oui, les résultats de cette première expérience-là sont sortis il y a quelques années. Et ça donnait des résultats étonnamment intéressants. Pas que j'avais peu espoir, mais c'était quand même une première expérience exploratoire. Mm-hmm. Et on a vu des corrélations entre les traits fonctionnels et l'accumulation de métaux.
OK. Lesquels? Je suis vraiment curieuse, là.
Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les traits qui nous permettaient un peu de classifier les espèces en termes de croissance, donc celles qui croient le plus rapidement versus mm-hmm. celles qui croient moins rapidement, parce qu'on s'entend, les sols sont toutes des espèces qui croissent vraiment rapidement, comme je vous l'ai dit. Mais il y a quand même des espèces qui sont vraiment là, 1 mètre par année ou 2 mètres par année. Ils sont vraiment, ils poussent énormément.
Wow, okay.
Alors qu'il y en a d'autres qui sont, disons, plus modérés. Okay? Donc, cet axe-là, disons, de croissance, les traits qui étaient reliés à ça, on a vu qu'ils étaient reliés à l'accumulation de métaux dans les parties aériennes. OK? Donc, pas les racines, je parle vraiment de la partie aérienne, ce qu'on est capable d'aller récolter. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les espèces qui étaient qui poussaient plus modérément avaient une plus grande quantité de métaux dans leur partie aérienne que ceux qui poussaient vraiment très rapidement. Puis ça, c'est drôle parce que c'est un peu en contradiction avec ce qui est recommandé, disons, ou souvent on va dire, prenez l'espèce la plus rapide, qui pousse la plus rapide.
Parce que t'as dit que t'as des pompes, hein, c'est ça?
Exact. Ouais. Pour aller avoir un terrain végétalisé rapidement, puis produire beaucoup de masse, tout ça. Puis on se rend compte que, ben, finalement, quand on regarde vraiment la quantité totale, même s'il y a les plantes, elles poussent plus rapidement, mais c'est peut-être pas nécessairement celles qui accumulent le plus de métaux.
OK. Ah. Pour quelle raison? C'est quoi qu'on utilise pour expliquer ça?
Je sais pas. C'est les prochaines recherches, d'où d'où le fait que c'est intéressant parce que ces traits-là, une fois qu'on a des pistes, ben, mm-hmm. elles nous permettent d'orienter de la recherche fondamentale vraiment intéressante. Donc ça, ce serait effectivement une question super intéressante à aller développer.
Mais c'est déjà super fascinant que ce sont les plantes qui poussent dans les sols, le gradient que tu mentionnais de croissance, ce sont celles qui poussent le plus modérément versus celles qui poussent très rapidement, qui accumulent le plus de métal.
Oui, c'est ça. Puis même entre des espèces qui sont quand même similaires, là, c'est toutes des sols, quand même à avoir des résultats. Puis cette recherche-là nous a aussi montré que ces corrélations-là dont je vous parle, elles tiennent peu importe le métal. Fait qu'on, on a testé 8 métaux, zinc, cuivre, etc. Puis ça avait toutes les mêmes corrélations. Donc ces résultats-là peuvent être considérés comme assez généralisables, peu importe le contaminant. Fait que ça, c'est vraiment intéressant aussi.
Chez les poissons, on appelle ça souvent la dilution de croissance. Donc plus que le poisson peut grandir rapidement, il dilue ses concentrations de métaux.
Ah ben oui.
À cause de son métabolisme pour grandir.
Ouais, je me demande si ça serait applicable pour les sols aussi.
Ça a juste fait penser à ça.
Ben
oui. Ouais, ben c'est ça. C'est une des choses qui est intéressante chez les sols, c'est qu'elles sont capables de sortir beaucoup de quantités de métaux puis de le diluer dans leur biomasse. Fait qu'on arrive à des concentrations pas nécessairement toxiques. Mm-hmm. Ça, c'est intéressant si on veut réutiliser la biomasse.
OK.
Mais là, on avait vraiment à biomasse égale, disons, ceux qui poussaient modérément avaient plus de métaux. Fait que là, ils ont une façon d'accumuler les métaux supérieurs, probablement dû au fait qu'en général, quand tu pousses moins vite, tu as plus tendance à garder tes nutriments. Fait que probablement qu'ils gardent un peu plus les métaux dans leur tissu.
Ça serait intéressant d'aller voir aussi au niveau cellulaire et biomoléculaire de, tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que ça reste plus dans la plante.
Ouais,
c'est... J'allais dire qu'ils ont peut-être des stratégies pour... Ouais. Combattre un peu l'effet toxique de ces métaux-là plutôt que celles qui croissent très rapidement. Là.
Puis est-ce que c'était vraiment plusieurs espèces à croissance modérée ou c'était certaines espèces modérées qui en accumulent plus puis ça variait quand même ou c'était très clair?
Ça variait pas tant que ça. Okay. On avait une espèce, disons, assez modérée, basse, une intermédiaire puis une très rapide qu'on utilise d'habitude toujours. Là, finalement, c'était pas la meilleure.
C'est cool.
Ouais. Puis c'est le fun, on parle là, de stratégie, mais c'est un peu ça que j'essaie de développer en utilisant les traits. C'est vraiment savoir, OK, c'est quoi la stratégie? Parce que on comprend au niveau cellulaire souvent, mais dès qu'on monte d'une échelle où là, on parle de l'individu total, il y a beaucoup d'interactions entre les cellules, les tissus, etc. Donc là, c'est quoi la stratégie, les compromis que la plante elle fait pour accumuler les métaux? Ou pour justement les extraire ou empêcher de les prendre. Puis c'est un peu ça le fil conducteur là, de mon doctorat. Puis c'est aussi pour ça que justement je me suis intéressée aux hyperaccumulatrices, qui est le deuxième chapitre dont on va parler aujourd'hui. Les hyperaccumulatrices, c'est des espèces qui sont capables d'accumuler de 100 à 1000 fois plus que d'autres espèces sur un terrain contaminé, et même jusqu'à 40 000 fois plus que des espèces normales.
Donc, le sol n'en est pas un?
Non, le sol n'en est pas un, justement à cause de notre effet de dilution. Là. Mm-hmm. Il croit beaucoup, il est capable vraiment de diluer les métaux. En tout cas, sa stratégie, c'est pas d'hyperaccumuler.
OK.
Mais il y en a d'autres que celui-là. Comme premier épisode là, de votre première saison, il y avait Adrien, qui est ici au Jardin botanique avec moi, qui utilise une fougère hyperaccumulatrice. Donc, ce genre d'espèces-là vont vraiment accumuler des quantités phénoménales de métal. Et ils ont vraiment donc une capacité unique à accumuler les métaux. C'est pour ça que je me suis intéressée à elles en premier, parce que je me suis dit, si on développait une adaptation aussi unique, aussi extrême, ils doivent bien avoir une stratégie pour être capable de... un compromis pour être capable de faire ça.
Puis peut-être qu'on peut mesurer cette capacité-là dans un trait fonctionnel.
Exactement.
Ouais.
Fait que là, encore mon approche de trait fonctionnel.
Ouais, non, mais j'ai juste comme souligné, t'as dit 100 fois plus parfois concentré, 1000 fois moins. Plus. 40 000 fois plus concentré dans ces plantes-là. Je veux dire, j'ai du mal à m'imaginer ça a l'air de quoi. Tu sais, ça doit être un environnement tellement toxique dans la plante, finalement.
Ouais.
Mais elles font ça. C'est une de leurs forces.
Oui, exactement. Puis il y a plusieurs hypothèses écologiques, évolutives, de pourquoi elles accumulent. Des fois, c'est pour peut-être se défendre. Parfois, c'est simplement parce qu'il y en a tellement dans le sol. C'est juste une façon de pas avoir à se battre contre. Bon, je vulgarise, là, mais il y a plusieurs hypothèses. Puis si on n'est pas encore sûres de pourquoi elles hyper-accumulent ces métaux-là. Et ça faisait aussi un peu partie de ce dialogue-là, de savoir, OK, mais est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce que ça pourrait nous aider à savoir pourquoi? Ben, je pense qu'on peut... Je vais vous parler un peu de qu'est-ce que j'ai fait, puis oui, là, je pourrais vous dire si ça y répond ou pas, mais...
Tout à fait.
Donc, ce que j'ai fait pour adresser cette question-là, c'est que je suis allée voir une base de données internationale qui répertorie à peu près toutes les espèces qu'on connaît hyper-accumulatrices. Donc, il y en a environ à peu près 700 espèces qu'on connaît pour l'instant.
Puis, il y a quoi dans cette base de données-là comme variable, par exemple?
Il n'y en a pas tant que ça. Okay. Il y a le nom des espèces.
Une chance.
Le nom des espèces, en général, la quantité qu'il est capable d'accumuler, okay. Vu que c'est le principal critère. Souvent, le lieu ou l'environnement où ça a été trouvé, avec probablement la documentation. Mm-hmm.
Ouais.
Mais c'est très rudimentaire. Et donc, j'ai vraiment dû vérifier espèce par espèce, est-ce que la source était fiable. Mm-hmm. Donc, j'ai passé à travers cette liste-là et je l'ai comme rentrée dans la base de données TRI. Et donc, la base de données TRI, c'est une base de données internationale qui comporte des milliers de traits fonctionnels sur des milliers d'espèces.
OK. Fait que ça, c'est deux bases de données. T'as la première avec les espèces hyper-accumulatrices, la deuxième que t'appelles TRI, T-R-Y, je pense.
Exact.
Qui comprend les traits fonctionnels. Puis là, t'es allé faire une espèce de jumelage entre les deux pour voir si tu pouvais trouver d'autres traits fonctionnels à ces plantes-là.
Ouais, exact. Parce qu'on n'a aucun trait fonctionnel pour ces plantes-là.
OK. Fait.
Et donc, je me suis dit, ben peut-être qu'il y a des gens qui ont mesuré ces espèces-là de façon anodine, mais avec d'autres
objectifs.
Ouais, d'autres objectifs. Puis c'est un peu pour ça qu'elles sont mises à disposition de tout le monde, des chercheurs, etc. Parce que souvent, on mesure pour un but, puis après ça, ça reste dans l'oubli. Mais là, on les met sur cette base de données-là, et là, tout le monde a accès à ces traits fonctionnels-là.
OK.
Et j'ai choisi 3 traits fonctionnels, là, les assez typiques, et là, j'avais à peu près 4500 espèces.
Lesquelles?
J'ai pris l'aire foliaire, donc la surface mm-hmm. des feuilles, la surface foliaire spécifique, donc ça, c'est l'aire foliaire sur son poids frais.
OK.
Et la teneur en matière sèche. Donc ça, c'est un peu le ratio, la masse fraîche sur la masse sèche. Pour un peu savoir là, c'est quoi la partie sèche, la masse sèche de ma feuille.
OK, fait que sans l'eau.
Exact.
Super. Ouais.
Puis, ces traits-là, la teneur en matière sèche et l'air spécifique foliaire sont vraiment deux traits qui nous permettent de savoir justement est-ce que notre espèce pousse rapidement ou non.
OK.
Là, si je... Mais c'est très simple. Puis notre aire foliaire seulement, la surface de notre feuille, nous aide un peu à dire est-ce que c'est une grande plante ou une petite plante, est-ce qu'elle est compétitrice ou pas.
OK.
Fait que c'est vraiment de base. C'était en mode exploration, mais avec beaucoup d'espèces.
Oui, tu t'as dit 4500 espèces dans cette base de données TRI.
Oui, exactement. Donc quand j'ai mis la liste d'hyperaccumulatrices, puis je l'ai appliqué à la base de données de TRI.
Mm-hmm.
J'ai obtenu 19 espèces. Donc, j'avais 19 espèces qui étaient présentes sur la base de données de TRI. Donc, j'avais leurs traits.
OK. Donc ça, c'est des 700 espèces. Il y en avait 19 qui se retrouvaient dans la base de données de TRI.
Oui, exactement. OK. Exactement. Puis, j'ai un peu essayé d'analyser, visualiser, puis je me suis rendu compte que finalement, il n'y avait pas vraiment de tendance. Il y avait vraiment des stratégies très différentes les unes des autres. Quand on les compare là, à toutes les autres espèces.
Mettons, parce que là, comme on a mis ces 19 espèces hyperaccumulatrices, on peut maintenant connaître leurs traits, parce que leurs traits fonctionnels proviennent de la base de données TRI. Donc, quand on regarde leurs traits, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas des traits qui sont communs aux espèces. Tous ces traits-là sont très différents, finalement.
Oui, exactement. Okay. Donc, je m'attendais un peu à ce que, quand on les regarde, elles aient tous des traits similaires. Mais en fait, c'était ça que je...
Ça, on pouvait expliquer finalement pourquoi elles étaient hyperaccumulatrices.
Oui, c'est parce qu'elles sont grandes et dodues.
Exact.
C'est pas exceptionnel, là, mais...
Est-ce qu'elles ont une surface foliaire?
Ouais,
exact. mais finalement, ça sortait pas. Elles ont toutes des stratégies ou des traits très différents. Et, bon, évidemment, il y en a 19. Sur 700.
Mmh. Ouais.
Donc, on s'est dit, il y a peut-être aussi qu'on n'a pas beaucoup de données encore.
Mmh.
Et donc, dans cette perspective-là, où je trouvais quand même que c'était intéressant, parce que je pense pas que je peux conclure avec seulement 19 espèces.
Mais
donc,
quand même, tu sais.
Ça donne une tendance.
Ouais.
Et je trouvais ça très intéressant parce que dans la littérature, en général, on arrive à dire « Ah, les hyperaccumulatrices ont tendance à avoir telle stratégie, à pousser très lentement, à avoir des petites feuilles. » Et là, je montrais qu'en fait, il n'y a même pas cette tendance-là. Pas du tout. Là, c'est vraiment très diversifié. Et c'est pour ça que j'ai fait un appel à la collaboration. Mm-hmm. Je me suis dit, peut-être qu'il y a plein de monde qui vont faire des expéditions, qui travaillent avec les plantes hyperaccumulatrices. Comme c'est des traits très simples, comme je l'ai dit, ça pourrait être facile d'aller les mesurer sur le terrain, etc. Et ça a été vraiment bien reçu par la communauté scientifique. Je suis allée cet été dans un congrès à Nancy, un congrès d'écologistes de sols métallifères, donc des sols qui contiennent des métaux. Et les gens trouvaient que c'était une bonne idée. Même qu'on a créé un groupe de recherche pour travailler sur les traits fonctionnels dans les milieux hostiles qui contiennent des métaux ou non. Mm-hmm. Et même que j'avais quelques collaborateurs qui venaient aussi de commencer à travailler avec les traits fonctionnels. Donc, on était vraiment tous alignés. Mm-hmm. Et eux sortaient des conclusions contradictoires. Donc, un, par exemple, disait « Ah, les hyperaccumulatrices de mon écosystème, ils poussent très rapidement. » Puis l'autre, il disait « Hey, moi, ils poussent très lentement. » Donc, ça vient un peu confirmer qu'il y a probablement, il y a plusieurs stratégies aux hyperaccumulatrices. Et donc, il va falloir continuer à chercher, là, c'est quoi le filon dans cette caractéristique unique qu'elles ont.
Mm-hmm. Fait qu'on est encore loin d'un outil utilisable par les décideurs ou les scientifiques, mais c'est vraiment, tu sais, un but là, plus grand qu'un doctorat. Là. Donc, on y contribue quand même, mais on n'est pas rendu à créer l'outil concrètement.
Oui, ben, je dirais que c'est vraiment une quête là, à trouver la raison de ces stratégies différentes-là. Ça va probablement dépendre du milieu, peut-être du type de métal cette fois-ci.
Mais je le visualise tellement bien, juste comme voir mon catalogue. OK, là, j'ai besoin de ça. C'est un peu ça.
On est peut-être old school avec le catalogue Sears, là, mais ça va être plus
okay,
une base de données sur Internet, mais on se comprend.
Avec des filtres. Exact. Tu peux dire, ben là, j'aimerais ça qu'il y ait plus de biodiversité. Donc là, ça me sort les plantes qui ont aussi c'est très...
Les filtres, j'aime ça.
Oui, mais tu sais, on a parlé de notre chaîne au début. Mon trait fonctionnel me dit c'est quoi la fonction de ma plante, puis après ça, mon service, puis mon bénéfice. Mm-hmm. Et donc, si on a ce répertoire-là d'espèces avec les traits fonctionnels, mm-hmm. on est vraiment capable d'aller se dire, OK, mais c'est quoi qu'on veut comme bénéfice, et donc comme service, puis là, ça va nous permettre de sélectionner ou de voir c'est quoi nos options, puis aussi de se dire, OK, c'est quoi nos conditions de site? Est-ce qu'on a des sites secs? Est-ce qu'on a des sites très humides? Puis là aussi, on va pouvoir sélectionner les fonctions des plantes selon les conditions du site.
Absolument.
Donc, ça va vraiment nous aider à cibler les espèces potentielles pour atteindre nos objectifs, dans le fond.
Le plus efficacement possible. Exact. Parce que, je veux dire, on peut mettre toutes les plantes, elles vont nous donner un certain bénéfice, enlever les métaux, peut-être très lentement, peut-être qu'on voudrait que ça soit fait beaucoup plus rapidement. Donc,
exact. Ou peut-être parfois aussi, on préfère que les plantes n'accumulent pas de métaux parce qu'on veut pas que ça aille dans la chaîne alimentaire. Ah, il y a plein d'objectifs.
Ouais. Mais je vois que c'est vraiment un champ de recherche florissant. OK, je l'ai juste appelé. Non, mais c'est vrai, plein de questions viennent avec ça. Puis en plus, c'est que je vois l'utilité de les appliquer maintenant. Enfin, c'est une recherche qui est nouvelle ou qui est assez récente, mais on aurait dû la commencer des centaines d'années plus tôt, je veux dire. On en a besoin maintenant. Fait que c'est cool de voir que il y a plusieurs questions qui émergent. Puis qu'est-ce que je retiens de ta recherche? C'est bon, au début, on pensait que... Les sols, par exemple, qui poussent les plus rapidement, qui ont la croissance la plus rapide, c'est ceux qui en accumulent plus. Finalement, c'est pas ça du tout. Puis ensuite, on pensait que les hyperaccumulatrices avaient tel ou tel trait fonctionnel. Finalement, c'est peut-être pas tant ça. Mais petit à petit, on commence à trier un peu les informations qui vont être utiles ou non au catalogue.
Oui, c'est ça, notre gros catalogue Sears. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que on avait comme des a priori où on pensait certaines choses, puis là finalement les traits fonctionnels viennent valider ou invalider mm-hmm. des choses ce qu'on assumait en fait. Et donc ça c'est vraiment intéressant. Puis c'est sûr qu'on n'est pas je suis pas à la veille là, de faire l'outil précis, mais c'est déjà dans mes axes de recherche que je vise là dans le futur.
C'est des étapes importantes quand même.
Exactement. Puis tu sais là on n'est pas nécessairement rendu à l'accumulation de métaux, mais disons, avec les hyperaccumulatrices, vu qu'ils ont différentes stratégies, ben, ça nous permet de savoir que, ben, peut-être que les métaux, c'est pas leurs priorités. C'est peut-être pas la contrainte numéro un, il y en a d'autres.
Ouais. Donc,
de se dire, ben finalement, peut-être qu'on fait beaucoup de focus sur l'accumulation de métaux, mais dans le fond, la sécheresse, c'est beaucoup plus important pour cet écosystème-là.
Ouais.
Ça va quand même nous aider à savoir quel genre de plantes mettre là.
Mm-hmm.
Parce qu'il faut qu'elles soient tolérantes aux contraintes. Donc, on focus tout le temps sur les métaux, mais là, ça va nous permettre aussi d'ouvrir là, les contraintes.
Oui, c'est ça, parce que peut-être que, comme il n'y a pas une stratégie universelle pour ces hyper-accumulatrices-là, il y a peut-être des contraintes qui sont plus importantes que les métaux présents dans le sol.
Exact.
Mmh, OK.
Exact. Puis c'est aussi important de les comprendre que la quantité de métaux qu'il y a dans le sol. Mmh, c'est un écosystème au complet. Fait que c'est ça qui est intéressant avec ça, c'est vraiment que ça nous permet là, d'aller avoir une vision plus holistique.
Mm-hmm.
C'est vraiment ça qui m'intéresse dans le futur. On dirait que plus j'en apprends, plus aussi je vois les problématiques auxquelles on est confrontés là, en ville, dans d'autres écosystèmes aussi, mais surtout en ville, les îlots de chaleur, inondations, etc., pollution. Puis ça, c'est toutes des choses qui vont nous aider à comprendre comment amener des plantes de façon intelligente ou les capacités des plantes, tu sais.
Les plantes au service des problématiques
exactement.
Humaines ou anthropiques.
Exact.
Béatrice, je trouve que tes axes de recherche, ça m'inspire beaucoup. Je vois vraiment bien comment cette recherche va être menée de l'avant. Puis je pense que ben, c'est certain que tu vas être la personne pour le faire.
J'espère.
Oui, mais aussi le fait que t'as lancé une collaboration comme ça quand t'étais en France cet été, je trouve que c'est vraiment ce qui est puissant dans la science. Ben, pour moi, dans la science, c'est que voilà, on peut travailler ensemble puis on fait vraiment avancer les choses ensemble parce qu'une personne peut pas être partout dans le monde, peut pas tout faire.
Non, puis il y a 10 têtes valent mieux qu'une.
Ah oui. Vous êtes 10 maintenant dans votre...
On est une douzaine dans le projet, dans le groupe de recherche.
Quand même, OK. Donc, pour finir, je voulais savoir... Donc déjà, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mais je voulais savoir si tu avais des recommandations pour notre auditoire.
Culturelles, juste des ressources qu'ils peuvent consulter.
Oui.
Donc oui, pour les gens qui sont intéressés par les phytotechnologies, un peu comme je l'ai nommé, là, la capacité des plantes à résoudre des problématiques mm-hmm. environnementales, il y a beaucoup de contenu vulgarisé sur le site de la Société québécoise des phytotechnologies. Super ressource. Si jamais aussi, il y a un site gouvernemental pour les terrains contaminés, on peut voir où on les retrouve là, au Québec.
OK, c'est vraiment une carte.
Oui, c'est une carte interactive.
Bon, cool.
Si jamais cool ça vous tente aussi de vous impliquer avec les phytotechnologies, je fais partie de PhytoAction, qui est un organisme qu'on essaie de mettre en place des genres de projets pilotes là, pour montrer que ça marche, les phytotechnologies,
wow.
Au niveau communautaire.
Ça, c'est une page Facebook ou un site?
On a un site Internet.
Parfait.
Super. Si jamais ça vous intéresse. Puis, c'est ça.
Bien, merci beaucoup, Béatrice Gervais-Bergeron. C'était vraiment un épisode fantastique. Puis, je te souhaite un catalogue futur.
Bien, merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment le fun de pouvoir venir parler de ma passion phytotechnologie avec vous et avec tout le monde.